shampoo dans la tête.
Bonsoir et bienvenue dans la cour de récré des papous dans la tête. Passer du déjeuner du dimanche au dîner du samedi soir, plus court le dîner, il faut se coucher le corps léger, mais l'esprit empli d'aise et de nourritures spirituelles et festives. Au menu gagné, jupitérien ou pas, les options d'Odile Conseil, Lucas Fournier et Violaine Schwartz.
Il est minuit passé, je fais les 100 pas, manier le pas, venez à moi, pas chasser, y a pas un chat.
Pour les sorties de la rentrée, je ne suis pas Diane de Poitiers, selon Patrick Beignet et Ricardo Mosner, suivi d'une histoire du samedi soir et du diagnostic littéraire à l'aveugle en public, un piège, choisi par Jean-Bernard Pouy. Pour les experts Patrice Minet, Val Massy, Patrice Delbourg et Serge Loncourt.
Si vous considérez qu'il faut tondre un mouton, disons une fois par an, plutôt au début du printemps pour pas qu'il prenne froid, et puis pas trop à l'été pour pas qu'il prenne des coups de soleil. C'est complexe, hein. On se dit comment faisaient les moutons quand l'homme n'était pas là.
Il y a quelqu'un ?
Les gens, comme dit Mélenchon.
Mais non, mais c'était...
Vous nous avez retrouvés ? On compte sur vous pour basculer du dimanche au samedi vos habitudes d'écoute papouétique. Et vous, les générations d'enfants qui, pendant 32 années de repas du dimanche, avaient entendu cette petite phrase « Chut ! On parle pas à table, c'est l'heure des papous !» Vous pouvez crier, jouer, hurler le dimanche.
Youhou !
Mais attention, le samedi soir à 20h, c'est papou. Alors, chut ! Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook pour échanger en toute amitié virtuelle. Et à ceux qui nous découvrent, un grand salut.
Les papous dans la tête, samedi soir à 20h et dimanche matin en podcast sur France Culture.
Et même sur franceculture.fr. Alors, il y a des mots qui marquent une époque, qui inspirent, étonnent ou détonnent. Des mots dont il faudrait faire le tour, peut-être, avant de les lancer haut et fort. Trois mots que nous ferons entrer dans notre petit rimailleur illustré, dictionnaire en vers de la langue, où chaque définition, pour subjective qu'en soit le traitement par un de nos rédacteurs, devra tenir compte de tous les sens. Odile Conseil, c'est à vous l'honneur. Vous êtes arrivée avec un mot que vous aviez envie de mettre en rime à votre façon, c'est le verbe « gagner ».
C'est exact.
C'est un mot important, « gagner ». Gagner dans la vie, c'est beaucoup pour vous.
Pour moi, pas particulièrement, mais manifestement pour beaucoup de gens, ça compte beaucoup.
Ouais. Alors, Lucas Fournier tourne les pages une par une pour arriver au verbe « gagner » puisqu'il va vous contrôler.
Là, je suis à Gaillard, donc on approche.
Vérifiez si vous traitez tous les sens.
Oula,
c'est énorme, c'est, je crois, un gagner.
Il y a presque une page entière.
Ah, et vous nous avez fait la légende des siècles. Non, pas tout
je
à fait.
Un abstract de la légende des siècles.
Alors, allez-y.
Je vous traite ça donc en vers d'inégale longueur,
oui,
rythmé par des questions. Gagner, c'est un petit mot qui pose grande question. Je vais en faire ici complète recension. Savez-vous ce que c'est que gagner ? Écrivait un beau jour Madame de Sévigné. C'est lever haut le poing en montrant toutes ses dents, parce que tout simplement, tous derrière, soit devant. C'est finir le premier, faire la course en tête, en un mot l'emporter, recevoir les lauriers et parfois un bouquet. Dans ce genre de compète, il n'y a qu'un vainqueur, devant le grand troupeau des autres, les losers. Sauf quand c'est qui perd gagne. Ici, c'est le dernier qu'on arrose de champagne. Celui qui, de ratage en ratage étalé, dit aussi, soupirant, « J'ai gagné ma journée ». Madame rhétorique appelle ça antiphrase, dire d'un truc son contraire, ça peut paraître naze. Et pour gagner sa vie, faut travailler, mon frère. À la gagner ainsi, certains disent qu'on la perd. Ils disent le prix du pain, c'est la sueur des hommes, quand d'autres gagnent du pèse, rien qu'en faisant un somme. Il y a ceux qui gagnent gros, faut parfois du culot. Et les gagnes petits, ça ne fait pas envie. Et les gagnes misères, ça c'était avant-guerre. Métiers oubliés comme boyautier, vendeuse de sangsues, fini, disparu. Si le navire coule, Le capitaine est cool. Gagnons donc le rivage, tous ensemble, à la nage. Son discours est ardent. Il a gagné les cœurs et tous d'un même élan le suivent avec ardeur.
Oui, ça c'est dans la théorie.
Nageons dans le courant, nous gagnerons du temps. Et vous, les forts, les grands, aidez donc les petits. C'est une belle façon de gagner son paradis. Si le vainqueur est femme, est-elle une gagneuse? Elle a certes un maquereau, mais elle n'est pas pêcheuse. Tout juste pêcheresse si elle va à confesse. Et dire qu'elle rêvait de toucher le gros lot, se voyait écrivaine, gagner le Renaudot, ou mieux, championne d'arts martiaux d'aïkido, gagnant en précision chaque jour dans le dojo. Dans quelles conditions est-ce qu'on gagne au change? Troquant son droit d'aînesse contre un quartier d'orange? En vendant ses dollars contre un peu moins d'euros? Si l'on plaque un gros beauf pour un bel hidalgo? Qu'en dit-on d'une idée qu'elle gagne du terrain? Quand elle se répand, infusante en chacun? Mais si c'est l'ennemi qui progresse à grands pas, ou bien un incendie, là on s'inquiétera. Mais le doute me gagne. Ai-je tout bien traité? De ce verbe gagner, n'ai-je rien oublié? Si, voici son contraire, c'est tout simplement perdre, qui fait dire in petto, merdre, merdre, merdre.
Et Lucas Fournier, qu'est-ce qu'il pense alors?
Moi je trouve qu'elle a gagné en aisance. Oui, et son style a gagné en force et en précision.
Ah bon alors?
Savez-vous d'où vient le verbe gagner? En 1660, on disait gaénier. Oui, gaénier. C'est très curieux.
Ah ouais?
Oui. Se procurer de la nourriture ou du butin.
Ah, ça voulait dire
c'était
que
le
ça.
Sens au XIIe siècle.
Ouais,
oui.
Ouais.
Alors depuis, il y en a beaucoup d'autres.
Ouais. Et c'est gagner son pain, quoi. Un peu.
C'est gagner sa croûte, gagner son pain, gagner son beefsteak. Il y a quelques citations absolument touchantes dans ce dictionnaire, en particulier celle-ci. Jean-Jacques Rousseau, qui me gagnait toujours aux échecs, de Diderot.
Ah ouais.
Eh oui. Et puis cette très belle phrase de Balzac, ça c'est pour Odile, « La passion y gagne en profondeur ce qu'elle paraît perdre en vivacité. »
Ah, c'est très beau ça. Bon, vous ne l'offrez qu'à elle, mais c'est bien, gardez-la précieusement, Odile.
Contre mon cœur.
Idriss percevait l'angoisse et l'impatience qui gagnait son compagnon.
C'est signé.
Michel Tournier.
C'est parfait. Offrez donc ce dictionnaire à Violaine Schwartz, qui va vous contrôler, Lucas Fournier. Vous contrôlez sur quel mot? Un mot que vous avez choisi?
Jupitérien.
Allez.
Qui est un adjectif.
Ouais. C'est à J.
Oui.
Violaine.
Oui.
Revenez en arrière.
Ah oui.
Non, mais il peut y avoir un malentendu.
Non, j'y suis.
C'est un G.
Alors...
Ça n'existe pas dans notre
discours. Si, on l'a, d'accord, oui.
C'est tout petit, oui, c'est un adjectif. Oui. Et alors, vous le traitez comment?
J'en ai fait un peu. Ah, oh, ben, jupitérien, c'est en alexandrin, ça.
Ouais, il faut
c'est
en faire.
C'est difficile de faire autrement. J'ai choisi de parler du mot jupitérien parce qu'il manquait encore à notre dictionnaire et que cet adjectif, sous son air ordinaire, lui jadis microbien et lui qui n'était rien, triomphe absolument puisqu'il est macronien. Jupitérien vivait dans un endroit charmant, que voici, sous la jupette. Exactement. Vous pouvez vérifier en ouvrant le Larousse, au-dessus du jupon. Ce truc que l'on retrousse quand on veut démontrer qu'on l'est complètement jupitérien, c'est-à-dire impérieux, dominateur ardent, qu'on en met plein les yeux, qu'on trouble ses sujets avec ses attributs. Jupitérien existe aussi au féminin. Mais j'ai beaucoup cherché, et cet effort fut vain, je ne vois pas de femme qui soit jupitérienne. Du côté de Vénus, elles sont vénériennes ou même aphrodisiaques. Jupitérien n'a pas de version grecque. Zeus et Jupiter, au fond, c'est le même mec. Or, le jupitérien n'est jamais zeusien.
Zeusien.
Eh oui. Longtemps, jupitérien ne servait plus à rien. Seuls de vieux astrologues, plutôt que joviens, utilisaient le mot parlant de Jupiter, cette grosse planète du système solaire. Jovien, que j'ai cité, est un pur synonyme de ce jupitérien, et il en a la rime.
Ah oui?
Oui, c'est vrai.
Oui.
Et quant à Jupiter, le dieu romain du ciel, de la lumière, de la foudre et du tonnerre, ce qui est colossal et qui est essentiel, au fond, ce Jupiter, on ne s'en souciait guère, alors son adjectif, c'était vraiment que dalle. C'était pendant l'aurore d'une profonde nuit, à l'heure où blanchit la campagne électorale, avec ses grands discours, ses slogans pleins d'ennui, qu'un qualificatif tout à coup a surgi. Ce fut jupitérien, non pas jupétérien, encore que sur ce point, il y a peut-être un lien. Non pas jupétarien, parce qu'il y a le jupon, dont j'ai déjà parlé. Vous suivez?
Oui.
Je serai Jupiter ou je ne serai rien, proclama un jeune homme à la télévision. Il poussait un à un, ainsi ses petits pions. Depuis le cid, on sait bien qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il s'était mis en marche et vainquit sous les arches. Entre ici, Jupiter, et toi, Jupitérien, sors de ton purgatoire où t'avais mis l'histoire. Vois le jour se lever et les Champs-Élysées.
Oh, c'est beau, hein? C'est très, très beau. C'est bien de réhabiliter quand même certains mots qui étaient tombés dans l'oubli.
C'est absolument formidable. C'était tellement inattendu que ce petit jupitérien qui n'a que deux lignes
rikiki.
Alors, lisez-nous les deux lignes.
Voilà, adjectif. 17e siècle, je crois. De Jupiter, relatif à Jupiter, jovien, qui a un caractère impérieux, dominateur. Alors là, il y a une citation que je trouve formidable. La contraction jupitérienne de ses sourcils. Balzac. Alors du coup, quand vous lisiez, je ne regardais que vos sourcils.
parce que Jupiter a des sourcils.
Oui.
La contraction jupitérienne de ses sourcils.
Ouais.
Il buvait peut-être un peu trop de café.
Jacques Bertrand, vous voulez bien attraper le dictionnaire et contrôler Violaine Schwartz, qui va se lancer sur le mot « pas ». P.A.S. Vous le traitez de quelle façon?
Je le traite en chanson.
C'est un régal.
C'est copieux.
Oui, il y a combien? Il y a 3 colonnes au moins.
3 pages, oui.
Oui, il y a pratiquement 2 pages.
Ah oui, et vous avez tout contracté en une petite chanson, laquelle? Sur quel air?
Sur l'air de « Les petits pas pieds » de Gainsbourg.
Oui, ça c'est bien, on vous écoute.
Venez à moi, à pas presser, à pas de loup, pas de géant, sur le pas de porte, au pied levé, je vous attends. Il est minuit passé, je fais les 100 pas, manier le pas, venez à moi, à pas chasser, y a pas un chat, c'est l'heure de faire le premier pas, moi je suis là, en pied de chaussette, je vous attends, embrassez-moi, qu'est-ce que vous faites? Allongez le papa de charge, emmenez-moi au Pas-de-Calais, pas de côté, j'emmène pas large, l'air devient frais, vous ne venez papa en arrière, vous m'oubliez pas de tortue, quel mauvais pas, quelle misère, vous ne viendrez plus, et dans la salle des pas perdus, je compte mes pas tout étourdis, sans pas de vis, je fais le pied de grue. Le cœur en charpie, je ne sais plus sur quel pied danser, pas de valse ou pas de tango, pas de deux ou pas saut blé, pas de moineau, je rentre chez moi à petits pas, c'est à deux pas, pas de souris, je ne pleure pas, pas de faux pas, les pieds meurtris, un, deux, perdu, dix de retrouver, je vous oublierai pas, pas, avec un autre, je prendrai mon pied. Et puis voilà.
C'est charmant.
Mais tout à fait, puis c'est très complet.
C'est vrai, vous avez eu le temps de lire les 3 pages du dictionnaire pendant sa petite chanson.
En diagonale. Mais oui, pas de faux pas, apparemment. Il y a le pas adverbe. C'est dans celui-là qu'on trouve les citations les plus rigolotes.
Allez-y.
Moi, dit Gabriel, je fais pas de politique. Que nous.
Oui.
Et une plus assez surprenante. Vous m'écrirez pas.
Ah oui? C'est qui?
Rimbaud.
Ah oui?
Mais ma grand-mère posait souvent la question comme ça. Pas, tu reviendras pas trop tard, pas.
Ah bon?
Ah oui.
C'est original, ça.
C'est Ardéchois.
Rimbaud était Ardéchois, c'est bien
connu.
Oui,
tout à fait. De Paul Valéry, bien sûr. Si de tes lèvres avancées à l'habitant de mes pensées, tu prépares la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, car j'ai vécu de vous attendre. Et mon cœur n'était que vos pas.
Oh, c'est bien, et de mémoire, hein, bravo. On fait entrer votre mot dans le dictionnaire.
Au pas de charge.
Pour
Buffon, pour finir.
Oui.
Oui, Buffon. Il ne faut jamais oublier Buffon. Non. Le pas, qui est la plus lente de toutes les allures, doit cependant être prompt.
Ah bon? Ah, c'est tout Buffon, ça.
C'est tout Buffon.
Les papous, c'est dans la tête. Et sur France Culture, le samedi de 20h à 21h, dorénavant. Et c'est la rentrée. Ah, une petite phrase que vous entendez partout, difficile d'y échapper parce que c'est vrai, c'est la rentrée. Et cette rentrée, comme toutes les autres, a son lot de livres, de spectacles, d'expos, autant d'événements bondissants, réjouissants, truculents, ne voyant que le positif de ces sorties de la rentrée, sorties sur lesquelles nous avons nos impressions et notre regard en biais. Prenez Patrick Beignet, un papou qui sort et lit beaucoup. Souvent, il nous raconte ce qu'il a aimé pour partager. Donc Patrick, là, il serait question de quoi ?
D'une pièce de théâtre.
Oui.
De boulevard, pour tout dire. Et le titre de mon article, c'est le titre de la pièce, « Je ne suis pas Diane de Poitiers ».
Oh, c'est un titre formidable, je trouve.
Pour tout dire, je n'attendais pas grand-chose de ce spectacle. Encore une comédie de boulevard, me disais-je en bougonnant au moment d'entrer dans la salle. L'auteur, ce Jean Pontifex, n'est sûrement pas un nouveau Shakespeare. D'ailleurs, quels que soient ses défauts par ailleurs, et ils sont nombreux, Shakespeare aurait trouvé un meilleur titre que « Je ne suis pas Diane de Poitiers ». Je n'affirmerai pas aujourd'hui que Jean Pontifex est un nouveau Shakespeare, mais « Je ne suis pas Diane de Poitiers » est une excellente surprise. Le point de départ est d'une troublante et exquise originalité. La scène se passe dans le salon des Bodo-Martin, quadragénaire, cadre dans une grande entreprise, Hubert Bodo-Martin trompe sa femme avec la jeune et jolie Marion, dont il commence à se lasser au point qu'il songe à redevenir fidèle à sa femme Madeleine.
C'est le comble.
Hubert tente de l'expliquer à demi-mot à celle-ci au cours d'une scène très amusante, car Madeleine ignore tout de la liaison de son mari. Il est donc difficile à celui-ci d'expliquer son retournement. La scène où il essaie de se faire comprendre se clôt sur une énigmatique réplique de Madeleine « Je ne suis pas Diane de Poitiers ». Hubert est stupéfait par cette phrase, qui nous vaut un monologue de la plus belle eau, magistralement dit par Pierre Ergot, qui interprète le rôle. Qu'est-ce que Madeleine a voulu dire par là ? Rien dans les propos d'Hubert ne laissait entendre qu'il voyait en sa femme une nouvelle Diane de Poitiers. Surtout, se demande-t-il, où va-t-elle chercher cette référence ? Elle, si ignorante, si dépourvue de toute culture, où a-t-elle été pêchée Diane de Poitiers ? Hubert remarque encore, même moi qui suis beaucoup plus cultivé qu'elle, je n'ai qu'une idée très vague de Diane de Poitiers. De nos jours, plus personne ne sait qui était Diane de Poitiers. À mesure qu'il réfléchit, Hubert devient de plus en plus inquiet, jusqu'à une implacable conclusion. Tout ça n'est pas normal. Elle me trompe. Elle a un amant. Un amant qui lui raconte la vie de Diane de Poitiers. À cet instant, on sonne. C'est Étienne, le meilleur ami d'Hubert. Étienne est un historien spécialiste de la Renaissance, auteur de biographies à succès. Presque ex abrupto, on reconnaît là le talent de Jean Pontifex, il déclare à Hubert « Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je me suis lancé dans un nouveau travail, une biographie de Diane de Poitiers. »
Non.
Hubert est anéanti, mais il réussit à se maîtriser malgré le choc, son meilleur ami. Pour se donner une contenance, il dit « Ah oui, Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II, c'est ça ?»« Mais oui, répond Étienne, ce sujet me passionne tellement que j'en parle à tout le monde. » Le rideau tombe sur cette réplique ambiguë. L'art suprême de Jean Pontifex tient à ce que le spectateur, à cet instant, ne sait absolument pas s'il s'agit de coïncidence. Étienne et Madeleine sont-ils amants ? Le spectateur ne cesse de se poser la question pendant les 20 minutes d'entracte. Et c'est avec une curiosité fiévreuse qu'il regagne sa place. Hubert Bodo-Martin est-il cocu ? Sinon, comment Madeleine a-t-elle entendu parler de Diane de Poitiers ? Et surtout, pourquoi affirme-t-elle qu'elle n'est pas Diane de Poitiers, alors que personne ne l'accuse d'être la favorite d'Henri II ? Le troisième acte répond à toutes ces questions. Mais qu'on n'attende pas de nous un résumé qui gâcherait le plaisir du spectateur. Nous dirons simplement que l'action est relancée par l'apparition d'un exemplaire de la Diane de Poitiers de Philippe Erlanger, publié en 1958 chez Gallimard. Nous ajouterons que survient aussi Jean-Baptiste Bouillon, directeur honoraire des Archives nationales, délicieusement interprété par Catulle Mariani. En conclusion, « Je ne suis pas Diane de Poitiers », sous les dehors d'une simple comédie de boulevard, est une réflexion profonde et amusante sur l'amour et sur le couple. Contrairement à ce que je disais en commençant, il se pourrait bien que Jean Pontifex soit un nouveau Shakespeare. L'avenir nous le dira.
On a envie d'y aller, tout de suite. Super. Formidable. On a un spectateur, Ricardo Mosner, un vrai spectateur, non ?
Oui, oui.
Hein, vous avez vu la pièce ?
Oui, bien sûr. Je suis Sherlock Mosner, je suis spécialiste du théâtre anglais.
Oui.
J'ai eu vent du spectacle du nouveau Shakespeare du Sud-Ouest, I'm not the Diana of Poitiers. Alors je suis allé voir ce lamentable spectacle. Tout s'annonçait pour le mieux dans les deux premiers actes. Normal, c'est une vulgaire copie d'une pièce très peu connue de Shakespeare. Erreur et déformation autour d'un soupçon amoureux, des mistakes en anglais. Mais l'auteur, monsieur Mr. Pontifax, ou something like that, pour masquer son plagiat, a pris soin de changer de troisième acte. C'est navrant, car le public, pendant les 20 minutes d'entracte, gamberge, imagine, attend, s'impatiente, le suspense à son apogée. Finalement, moi-même, je m'étais fait à l'idée de voir un plagiat. Je m'étais dit, bon, tant pis, je connais la pièce, et puisqu'on est là, allons au bout de cette banale adaptation, de cette mascarade, la jolie actrice dans le rôle de Marion, était agréable à voir. Mais le pire arriva. Si dans la pièce de Shakespeare, le dénouement est d'une incroyable puissance dramatique et parallèlement à une simple histoire de cocoufillage, les maîtres of the English drama nous livrent un discours philosophique d'un niveau out of concurrence, limpide, sur la transcendance de l'acte amoureux et la mystification des rapports humains, Jean Pontifex nous déçoit avec un happy ending d'une platitude scénique où l'humour et l'invention brillent par leur absence. Comme Jean Pontifex, je ne vous raconte pas la fin.
Pontifex.
Enfin, je ne sais pas. Comme lui, je ne vous raconte pas la fin non plus. Ça ne vaut pas la peine.
Ah ben, on va être obligé d'aller voir la pièce, vous savez. On prend un billet collectif, Odile. Vous en êtes, Violaine ?
Allez-y, oui. Allez-y.
Oh, oui, on brûle.
Allez, on y va. Et on emmène Patrick Beignet, le critique. Vous voulez bien revoir la pièce ?
Bien sûr.
Une nouvelle fois.
Tous ces aperçus.
Surtout le troisième acte, vous pouvez arriver à l'entraide.
Ben oui.
J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laisse-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu ne crois pas, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, le cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu ne crois pas, t'as ta gueule à la récré. Le mercredi, je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars au chocolat.
Arthur H., vous écoutez France Culture, des papous dans la tête jusqu'à 21h. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du samedi soir. À suivre, histoire de samedi soir, justement. Et le DLA en public.
Y a quelqu'un ?
Pendant 32 saisons, nous avons fait les papous le dimanche. L'émission créée par Bertrand Jérôme avait d'ailleurs dans son cahier des charges de réunir, de capter les auditeurs juste avant et pendant le déjeuner du dimanche. Le déjeuner avait son importance. Bon, nous passons au dîner du samedi soir. Alors fini les jolis dimanches et bonjour les drôles de samedi soir. Est-ce qu'on peut dire ça, Lucas Fournier, un samedi soir peut être drôle ?
Drôle, oui, mais pas que. Non, Françoise, pardon, ça m'a échappé. Je hais ce « mais pas que » qu'on entend au bureau, dans les conversations ou même à la radio. « Mais pas que ». Non, mais pas que », c'est idiot. Non, je vais me rattraper. Drôle, c'est un peu court. On pourrait dire odieux bien des choses en somme, et vraiment beaucoup mieux, en variant le ton, comme fait Cyrano en y mêlant Guitry et un soupçon d'Hugo. Les histoires le samedi sont toutes extravagantes. En voici un bouquet aux fleurs déconcertantes.
La première.
Étrange ! Un samedi, selon le Grand Larousse, c'est le 6e jour dans toute la semaine. Or, si j'appelle l'académie à la rescousse, selon son dictionnaire de 1932, mais pas que. En 1835 déjà, et en 1798 en tout cas, ce jour serait le 7e. On est dans le bleu, là. Par quelle étrangeté, dans tous nos dictionnaires, en moins d'un siècle,
le samedi hebdomadaire a-t-il été promu non plus 7e jour, mais bel et bien 6e. On est dans du très lourd. Interpellant. Croyez-vous donc que le samedi soir aussi, Marcel Proust allait se coucher de bonne heure ?
Ben, je ne sais pas, c'est ce qu'il a écrit, non ?
Vous l'avez dit, le reste n'est que littérature. Désarmant. Ne faites pas l'amour, non, le samedi soir, disait Sacha Guitry au fond de son boudoir. Car s'il pleut le dimanche, vous ne saurez que faire. Ah, vous voyez bien, Françoise, ce n'est pas toujours drôle.
Mais encore.
Curieux. C'est une histoire belge. À Bruxelles, à ce que l'on m'a dit, faire son samedi, une fois, c'est faire la vaisselle et faire le ménage. Une fois au plus, je ne sais pas davantage. Intriguant. Le samedi 14, un roman inouï et noir et truculent signé Jean-Bernard
Pouy.
Le samedi 14, si vous l'ignoriez, suit le vendredi 13. Il en a la fréquence, mais n'a pas ses lauriers. Or, il peut porter chance. Insolite. On en voit samedi de toutes les couleurs, parfois orange ou vert, cela dépend de l'heure. En optant quelquefois pour le rouge et le noir, voici Bison Futé, adepte de Stendhal.
Ça, c'est bien.
Dramatique. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Le chevreuil est indemne, mais l'artiste a péri. Le sort nous a ravis, le grand Gonzague Saint-Brie, parti comme Camus. Non, c'était un lundi. Ah. Misogyne. Alexandre Dumas, le fils de son papa, qui fit tant palpiter la dame aux camélias, cet être tendre, a fait cette constatation. Juste avant son dimanche, l'ultime création que Dieu fit, fut la femme, nous apprend la Genèse. On sent bien qu'il était fatigué, mal à l'aise.
Moi qui trouvais Dumas tellement sympathique.
On est parfois très déçu avec les romantiques.
Et puis
philosophe enfin, avec un peu d'accent. Voici Francis Cabrel, le poète occitan. On est tout simplement, un samedi soir sur la terre, un samedi soir sur la terre. Pas la peine d'être plus précis, cette histoire est déjà finie.
Oh, c'est la fin ?
Ouais, mais pas que. Parce que vous savez quoi ? Si ça vous dit, je vous raconte un autre samedi, une autre histoire de samedi.
Boys and girls like Saturday night. Boys and girls like Saturday night. Saturday night is a sporting night and Saturday night is a courting night. Boys and girls like Saturday night.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture jusqu'à 21h, le DLA, notre plat de résistance de ce dîner du samedi soir. Pour les non-initiés, le diagnostic littéraire à l'aveugle, DLA, confondent quatre experts un bout de littérature proposé anonymement par un cinquième joueur. Et ces experts doivent dire avec des arguments littéraires, si possible, quel écrivain en est l'auteur. Puisqu'il s'agit d'un jeu, perdre ou gagner, tant qu'il y a du plaisir, c'est pas bien grave. Et le papou expert ne se prend pas au sérieux, pas de grosses têtes chez nous. Le DLA de ce soir a été enregistré en juin dernier au cours de notre émission publique au studio 105 de la Maison de la Radio. Les experts, Patrice Minet, Eva Almassy, Patrice Delbourg, Serge Joncourt, le maître du jeu, celui qui propose, c'est Jean-Bernard Pouy. Vous lisez, Jean-Bernard, on écoute.
Séparée sur le milieu par une raie, elle coulait Fuego sur les deux épaules et couvrait son cou nu. Toute cette nappe d'un ton doré avait des ondoiements de lumière qui changeaient et fuyaient à chaque mouvement de tête qu'il faisait en priant. À ses côtés, la petite fille, à genoux comme lui, avait laissé tomber son bouquet par terre. Là seulement, et pour la première fois, j'ai compris la beauté de la chevelure de l'homme et le charme qu'elle peut avoir pour des bras nus qui s'y plongent. Étrange progrès que celui qui consiste à s'écourter partout les superfétations grandioses de la nature, si bien que lorsque nous la découvrons dans toute sa vierge plénitude, nous nous en étonnons comme d'une merveille révélée. Ô coiffeur, ô fer à papillote, ô philocôme à la vanille ou au citron, perruquier de tous les pays, brosse de toutes les façons, onguent de toute puanteur, ornez les chevelures de vos tire-bouchons et de vos tortillons, rasez-les à la malcontent, montez-les en poire, étalez-les en saule pleureur, versez dessus votre col de poisson, votre sirop de coin, vos bandolines, fixateurs et vos encaustiques luisants.
C'est pas mal, hein? C'est intéressant. Vous avez tout mémorisé, il y a des mots un peu compliqués. J'aimerais bien avoir un petit aperçu, comme ça, vos premières impressions.
Je peux d'abord poser une question. Philocome, oui. C'est quoi? Je ne sais pas.
Alors, c'est une très bonne question. On peut dire que vous avez le droit de dire ce que c'est, Jean-Bernard, ou pas? C'est à vous de choisir.
Ça vient du grec philo, aimer, comé, cheveux.
Donc, l'amour des cheveux, quoi. Serge, oui.
Non, le philocome, c'est un poisson. Alors, entre le comment vous décrire ça, entre le calamar et l'aliment, c'est un truc un peu
plat.
Oui, mais avec des cheveux. Oui, c'est, là, oui. Non, mais en fait,
comme le barbu.
Oui,
c'est un poisson aussi.
Oui, tout à fait.
Hein,
oui.
C'est ça.
Le barbu quand il est pas rasé, c'est vrai.
Oui,
que,
oui.
Non, c'est pas mal. Avec un peu d'estragon et de. Non, c'est une recette là. Il s'agit de.
Ah, il s'agit d'une recette.
Bah oui, on commence par l'arrêt. Après, on a les bouquets, même s'ils sont à genoux.
Ouais.
Le philocome, donc, bon, bah, moi, il y a longtemps que je n'ai pas mangé. Un peu de citron, etc. Le tire-bouchon, la colle à poisson, le sirop de coin, les bandoliers. Enfin, bon, c'est une recette. Oui, je ne sais pas de qui ça peut venir, ça, mais...
Ah, ça peut être un livre de cuisine. Hein. J'ai dit que seul Jean-Bernard Puy sait.
Oui, le Larousse gastronomique.
Ouais,
ou Jérôme
peut-être.
De Pomme. Oui, enfin,
vous pensez, comme Serge, qu'il s'agit d'une recette de cuisine?
Oui, à première vue, hein, pas à la seconde. Hein, pas à la seconde.
Valmassi, votre première impression?
J'ai essayé de compter les personnages.
Oui.
Alors, tout d'abord, j'ai compté aussi l'arrêt. Mais en deuxième lecture, c'est pour moi, c'est donc un homme à longs cheveux que je vois comme une sorte de Robinson, un prisonnier qui n'aurait pas eu la possibilité de
se faire couper les cheveux.
En même temps, ses cheveux ruissellent et ont l'air propre, brillent, donc c'est un petit peu contradictoire. Et il y a une petite fille à côté. Mais il y a aussi quelqu'un qui les regarde. Il y a ce narrateur qui s'émerveille de toute la beauté, donc il en a vu des cheveux de femme apparemment, mais jamais encore, ou alors chez les perruquiers, une telle splendeur.
Bon, c'est bien, c'est une bonne analyse de texte, c'est un peu plus précis pour nous. Oui, Patrice Minet.
Oui.
C'est écrit directement en français?
J'espère. Il y a quand même un effort. Il y a un effort d'écriture.
Oui.
C'est-à-dire que dans le texte, vous trouvez beaucoup d'allitération, surtout avec des R. Vous trouvez aussi, dans la deuxième partie, une adresse à des personnages. Vous voyez, ça peut... Ça
les
se
coiffeurs,
joue.
C'est
ouais.
Ça.
Oui.
Oh, coiffeurs.
Oui, non, pas seulement les coiffeurs, aussi leur matériel, fer à papillote, philocome, etc. Perruquet, bon, brosse. On s'adresse aux brosses. Voilà. Des fois qu'elles achètent le livre. Voilà.
Bon, Patrice Delbourg, votre point de vue sur ce texte. Vous l'aimez d'abord, ce texte, Patrice?
Pas du tout.
Pas du tout. Ah bon?
On est assez content quand ça s'arrête.
Ah bon?
C'est-à-dire, au début, on pense que c'est la fiction, puis c'est de la friction. C'est même de la science-friction. C'est une écriture assez hautaine, une écriture que je dirais une écriture crâne, un petit peu.
Ouais.
C'est tracé par un homme de peigne, ou plutôt... Plutôt, je pense, là, une femme de peigne.
Ah bon, vous oui. Prenez déjà une option.
Oui. Et c'est une sorte de mise en abîme de la coupe au bol. Vous voyez? Vous voyez un petit peu le tableau des Ménines, comme ça, avec quelqu'un qui se fait légèrement raser la nuque, comme ça, avec un petit régé color sur le côté. Et puis peut-être la brillantine des dieux, enfin... Non, c'est bon quand ça s'arrête.
Ah bon, moi je trouve ça très joli quand même. Bah, oh, oui. Philocome à la vanille ou au citron, ça c'est...
Justement.
Ça intrigue quand même.
Ah hein, bon c'est... Non, ça pique.
Serge Joncourt, vous êtes d'accord? Je crois que c'est Minet qui disait qu'il espérait que c'était écrit directement en français. Non, il n'y a pas une hypothèse traduction qui se dégage?
Ouh là.
Ah oui, c'est
non,
une vraie
non.
Question. Hein.
Non, il faut avoir un peu de compétence. C'est un auteur, je pense que c'est un bon auteur qui manque un peu de sujet. Donc, il a dû se dire, je vais décrire un tableau. À mon avis, c'est la description d'un tableau qui doit représenter la petite fille à genoux. Le problème, je pensais à un mariage, parce que c'était un peu dans la thématique. Enfin, ça représentait ça. Par contre, il est un peu à court de... Parce que quand vous en êtes en tant qu'auteur...
Oui.
À sortir les hauts coiffeurs, hauts fer à papillote, hauts philocomes à la vanille, hauts citrons, perruquiers de tous les pays, unissons-nous. Non, mais je veux que ça. ça manque un peu de ressources. Quoi.
C'est-à-dire qu'il tire à la ligne.
Il tire à la ligne.
Ça pourrait être un feuilletoniste.
Absolument. Voilà, qui est au bout. Quoi. Qui est vraiment... Ça doit être les derniers épisodes. Là. Je pense qu'après, on a arrêté le contrat. Donc ça permet un peu de dater, quoi, en gros.
C'est-à-dire ?
Bon, 19e, quelque chose
19e,
comme ça.
D'accord, Eva Almassi.
Non, je pense que c'est beaucoup plus récent, que c'est un petit peu parodique. Mais j'aimerais souligner encore autre chose quant au contenu. Oui. Il dit « Étrange progrès que celui qui consiste à s'écourter partout les superfétations grandioses de la nature ». Je pense que la nature s'en charge très bien, parfois très tôt, dès 30 et quelques années, les cheveux des hommes tombent souvent.
Oui. Ça vous mène où, littérairement parlant?
Ça me mène à quelqu'un qui veut faire de la littérature. Je pense que justement, ça n'est pas naturel, ce texte n'est pas naturel. C'est un petit peu tiré par les cheveux, si je veux dire.
D'accord.
Et voilà.
Patrice Delbourg, alors, c'est un texte que vous n'aimez pas?
Non, c'est un texte que je n'ai certainement jamais lu et qui doit appartenir à un livre que je n'ai jamais lu. Déjà, ça me donne peut-être quelques indications. Je vois un barbier dans le Middle West américain, vous voyez. Je vois, à cette époque, les hommes venaient se mettre un linge blanc autour du cou, comme ça, et venaient se faire raser la nuque, venaient se faire un petit peu gominer les tempes. Mmh. Nous sommes au milieu du 19e siècle, dans l'Alabama. Voilà ce que je veux
dire. Ah, d'accord.
Une sorte de western, un peu.
Oui, c'est ce que j'allais dire, on est dans le western.
Il y a
des westerns en Alabama?
Oui, bien sûr, il y a un miracle, mais il y a aussi des westerns.
Non, mais on peut être aussi en Inde, par exemple. Vous vous souvenez du film Le patient anglais, quand l'Indien enlève son turban et tout à coup jaillissent ses cheveux qu'il ne coupe jamais, je crois que c'est les chics.
Sous le
turban, il y a toute cette chevelure.
Il n'y a pas de mandoline en Inde. Il n'y a pas de fixateur.
Oh, sûrement.
Enfin.
Alors, on résume. Hein. 19e siècle, d'accord ou pas?
Moi, je suis d'accord, fin du 19e.
Ah, oui. Mmh. Et donc, français. Français d'écriture.
Français avec beaucoup, beaucoup d'efforts, oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe si ça se trouve dans un roman? Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on est au milieu d'un bon gros roman bien épais?
Ça, c'est difficile à dire parce que, en fait. Je pense que c'est un texte qui est fait pour être au moins lu à voix haute, comme exercice de diction.
Oui. Ah, oui.
C'est-à-dire, ça sent le théâtre de l'époque. C'est-à-dire un théâtre qu'on ne joue plus aujourd'hui.
Fin 19e.
Ouais. Voilà. Et c'est aussi très descriptif, avec un certain nombre de termes qui aujourd'hui ne sont plus utilisés. C'est vrai qu'on ne se rase plus à la malcontente, par exemple. C'est même très pressé. Hein, rasez-les à la malcontente. Ouais.
Vous rasez comment, vous?
Ouais, voilà, donc montez-les en poire. Voilà, tout ça, c'est un petit peu suranné.
Ouais.
Étalez-les en saule pleureur. Ça m'étonnerait qu'en sortant du coiffeur, vous regardiez, vous dites « Ah, je suis bien étalé en saule pleureur ». Et puis, ensuite, à la fin, on verse de la colle de poisson pour que ça tienne. Aujourd'hui, on a trouvé des trucs très efficaces en bombe, voilà, pour fixer.
D'accord. Jean-Bernard, puis on réécouterait volontiers ce texte
rurale,
parce qu'il n'est pas facile. Oui, l'Alabama pour vous, Patrice Delbourg. Jean-Bernard.
Séparée sur le milieu par une raie, elle coulait Fuego sur ses deux épaules et couvrait son cou nu. Toute cette nappe d'un ton doré avait des ondoiements de lumière qui changeaient et fuyaient à chaque mouvement de tête qu'il faisait en priant. À ses côtés, la petite fille, à genoux comme lui, avait laissé tomber son bouquet par terre. Là seulement, et pour la première fois, j'ai compris la beauté de la chevelure de l'homme et le charme qu'elle peut avoir pour des bras nus qui s'y plongent. Étrange progrès que celui qui consiste à s'écourter partout les superfétations grandioses de la nature, si bien que, lorsque nous la découvrons dans toute sa vierge plénitude, nous nous en étonnons comme d'une merveille révélée. Ô coiffeur, ô fer à papillotes, ô philocôme à la vanille ou au citron, perruquier de tous les pays, brosse de toutes les façons, onguent de toute puanteur, ornez les chevelures de vos tire-bouchons et de vos tortillons, rasez-les à la malcontent, montez-les en poire, étalez-les en saule pleureur, versez dessus votre col de poisson, votre sirop de coin, vos bandolines fixateurs et vos encaustiques luisants.
C'est pas plus clair la seconde lecture. Hein. Non, pas vraiment. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une faute de frappe sur assez courté partout les superfétations grandioses de la nature? C'est bien une forme pronominale, c'est bien sécourté.
Je ne fais pas de faute de frappe, moi.
Et parce que si c'était qui consiste à écourter, ce serait plus clair, quoi, que sécourté. Non,
c'est tel que.
C'est tel que. Eva Almassi.
Alors, j'ai changé d'avis à la deuxième lecture. Je pense qu'on est en Orient, genre lettre persane, et si c'est autant surchargé, c'est non pas du fait de l'auteur, mais parce qu'il en voit tellement, parce qu'il y a tellement de choses à faire voir, du coup, oui, et à raconter.
Et alors, c'est le personnage principal, Serge Joncourt, cet homme-là.
Lequel ?
Il y en a plusieurs pour vous, celui qui a tous ses cheveux-là. Ah oui, pas la petite fille, l'homme. L'homme.
Non,
c'est le héros du livre.
Oui, mais la facilité serait de considérer qu'il s'agit d'un homme. Non, on est dans la métaphore, là. On est dans le...
Vous revenez à la théorie du poisson initiale.
Non, je vais aller bien au-delà, je vais aller jusqu'au mouton.
Ah.
J'aime assez peu le poisson. Mais à la lumière de la vision de Patrice Delbourg, ce côté rural, d'un seul coup, tout m'est apparu.
Bah oui, l'humus, le compost.
On y est en plein dedans. Et en fait, ce texte soulève là une des questions les plus perturbantes, les plus hantantes. C'est la taille de la laine des moutons. Parce que si vous considérez que il faut tondre un mouton... disons une fois par an, plutôt au début du printemps pour pas qu'il prenne froid, et puis pas trop à l'été pour pas qu'il prenne des coups de soleil. C'est complexe, hein. On se dit, comment faisaient les moutons quand l'homme n'était pas là? Ou du moins, sans jouer les prophètes, comment faisaient les moutons avant qu'on invente la cisaille? Oui, là on est dans la question la plus profonde du devenir de l'être et de son passé en particulier. C'est un texte... Pour... Ah pardon, vous êtes là. Je cherchais de l'autre côté. C'est une forme d'allégorie sublime avec cette gamine à genoux qui tient son bouquet de fleurs et cet homme dont vous l'aurez compris qu'il est penché sur ce mouton qu'il essaie de tailler le plus habilement possible.
Tondre.
Si bien que ses cheveux lui-même tombent sur le... mouton qui, du coup, on ne sait plus bien si le mouton est tondu ou pas, parce que la chevelure de Samson embrassant la bête, on voit plus les gigots. Enfin bon, je vais vous dire, je suis presque ému, moi.
C'est beau, oui, c'est une belle image,
c'est
en
beau.
Tout
ah,
cas.
Oui, c'est beau, c'est beau.
Je ne sais pas à quelle hauteur ça va vous mener.
Oh, bah si.
Mais bon, c'est un détail. Patrice Minet, vous progressez?
Pardon, progressez. Il y a quand même une question intéressante, à mon sens. Ils sont à genoux. Comme lui.
Oui.
Le texte commence, on n'a pas vu qui était lui. Hein.
Le mouton, oui.
Maintenant qu'on le sait, c'est troublant.
Il
n'a pas compris. Je voudrais faire remarquer quand même que Serge Joncourt et Patrice Minet ne sont pas si loin de la théorie de l'Alabama de Patrice Delbourg. Parce que votre histoire de mouton, Serge, elle peut très bien se passer en Alabama.
Sachant que l'Alabama est le premier producteur de moutons des États-Unis.
Je
ne
suis pas sûr.
Après le Kentucky, donc c'est la métaphore ovine de Serge me va droit au cœur. Et je pense que le livre est dans la collection bouquins aussi, d'ailleurs.
Mais alors, ça ne vous entraîne pas vers une traduction, tout ça? Non?
Alors, il s'agit bien entendu d'une traduction.
Ah bah oui.
Évidemment.
Oui.
Bon, qui vient de l'anglo-saxon.
D'accord. Alors, dernière réflexion, Eva, puis on lâche des noms.
Mais donc moi, définitivement, j'ai reculé de plusieurs siècles.
Ah bon ?
Et là, je ne suis pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de siècles après la découverte de l'Amérique. Donc moi, je suis maintenant dans les zones du 17e, 18e siècle.
Ah
donc,
oui.
Alors que moi, j'étais contemporaine avant, j'écoute.
Oui.
Et plus j'écoute, et plus je m'écoute. Et donc, je pense que c'est plus ancien.
Alors ?
Et que c'est français.
Alors, donc, on a une piste étrangère anglo-saxonne pour Patrice Delbourg, une piste française pour Eva. Je ne sais pas où sont les moutons de Serge.
Alors, si vous voulez, depuis la nouvelle redistribution de la carte des régions, moi, je suis un peu perdu entre Nouvelle-Aquitaine, Ancienne Auvergne, Drôme... Enfin, vous voyez...
Oui, par là, quoi.
La Provence.
D'accord. Et pour Patrice, on est aussi en France, Patrice Mignot.
Ah oui, on est en France, oui. Ou en Espagne. Ou n'importe où vous voulez, oui.
Ah, l'Espagne, c'est pas mal.
Oui, oui, ça sent l'Espagne. Hein.
Mais il n'y a pas de taureaux, hein.
Non, il n'y a, ben, a pas que des taureaux en Espagne.
Non, c'est vrai.
Il y a aussi des coiffeurs.
Il y a peut-être des moutons aussi.
Et les
Mais c'est fou.
Est-ce que vous avez des noms à lâcher? Alors, Saint-Joncourt.
Oui, alors c'est... pas son meilleur, mais c'est du Giono qui encore une fois, sait nous attraper par l'image, par la sensation. Mmh. Hein, ces troupeaux, rappelez-vous du début de ce texte, le long troupeau, c'est ces brebis qui descendent, qui vont tellement vite qu'elles se blessent, qu'elles saignent. Il y a dans la laine des moutons plein d'araignées, de choses qui se sont prises. D'où vous savez que c'est important de les tailler, les moutons, quand même. Enfin,
non, mais je sais.
J'ai l'air de plaisanter comme ça.
Ah non, oui, pas du tout, je suis au courant, bien. Oui.
Et bon, d'une certaine façon, ça, c'est très beau, l'Alabama, sans aucun
on dit
doute.
C'est plutôt tondre que tailler un mouton. Tailler un mouton.
Oui, mais enfin, parce que vous en êtes passé à la tondeuse. Moi, j'en suis resté à la cisaille. Hein. J'en ai une chez moi, je vous montrerai.
Bon. Donc, l'Alabama, vous n'y croyez pas?
Non, moi j'ai peur de l'avion, je vais pas dans cette... Non, moi j'aurais la Provence. Ouais. Giono me va bien.
Mais vous trouvez que c'est écrit comme du Giono?
Ben je sais pas. Non, mais vous savez, le pauvre, il a beaucoup écrit. Parfois dans des conditions difficiles, là-haut, il n'y avait même pas l'électricité.
C'est vrai
que le haut coiffeur, au fer à papillote, au philocombe. Bon, les philocombes, vous savez, ils connaissaient bien la nature. Hein. C'est peut-être des plantes que moi je connais pas personnellement, mais enfin. Des philocomes à la vanille ou au citron, ça doit être joli. Hein. Il y a du vocabulaire chez Giono. Hein.
C'est vrai. Un Giono. Vous avez une hypothèse Giono dans la salle? Vous suivez Serge ou pas?
Non.
Pas du tout.
Non.
Il n'y en a même pas un?
Non. Giono n'allait jamais chez le coiffeur.
Si vous triomphez, vous serez tout seul, Serge. Et Valmassi, un nom?
Si c'était espagnol, ce serait Cervantes. Moi, je dis Voltaire ou Montesquieu, c'est les lettres.
Montesquieu.
Voilà.
Montesquieu.
Donc, Montesquieu ou Voltaire.
Ah, deux noms, quand même. Hein? Dans la salle, vous êtes partisan de Voltaire? Non. De Montesquieu?
Non.
Vous pensez à qui, vous? Allez-y, dites très fort si certains ont des idées. Ponson du Terrain. Ah, c'est le côté Mirbeau. Feuilleton, ça.
C'est le comté. Oui,
Octave Mirbeau.
Des frictions du crâne. Ouais.
Alors, il y a deux personnes qui se prononcent. Un Ponson du Terrail, un Octave Mirbeau.
Jarry.
Jarry.
Un Jarry, un Mirbeau. C'est bien, on a trois noms côté salle. Alors, on continue. Patrice Delbourg, nous sommes en Alabama.
Oui,
Il y a des moutons.
Nous sommes au sud de l'Alabama. Nous sommes en 1888. Nous sommes dans un grand roman, un gros roman, que je n'ai pas lu, mais où il y a des personnages avec des chevelures abondantes sous leur chapeau de cow-boy avec des fières statures hiératiques. Donc, c'est une femme qui a écrit, là. Vous l'avez senti tous, que c'est une femme.
Bah, surtout vous, oui.
Personne n'en parle, mais bon. C'est une femme qui parle de perruquier, d'onguent, de... Alors, évidemment...
Parce que les femmes passent leur vie chez le coiffeur, c'est ça pour vous?
Souvent, en tous les cas, plus que Giono, qui, lui, n'y a jamais mis les pieds.
Je sais pas.
Non, pour revenir à ce texte, je pense qu'il s'agit d'un texte de... un grand classique de la littérature, un peu pour adolescents. Je dirais les Brontë.
Les Brontë?
Oui.
Toutes en même temps.
Les Brontë.
Les Américaines, alors.
Ouais.
C'est la branchée.
C'est la branchée.
Un effet de ma Brontë.
Ce serait Mazo de la Roche. Alors, choisissez une Brontë, quand même. Alors, il y a
oui,
qui
que choisisse. Bah oui,
il y a Charlotte, il y a Émilie.
Ça sera un effet de votre Brontë.
Qui est la
troisième? Eh bien, je choisirai Émilie.
Émilie Brontë. Bon. Bah écoutez...
Avec ça, on n'y arrive pas.
Alors ça, c'est que vraiment, il y a un problème. Parce que... bon, elles sont plutôt anglaises. Hein. Je ne veux pas vous contrarier. Hein.
Et alors?
Non, vous avez raison, ils ont le droit d'écrire sur l'Alabama.
Et elles peuvent voyager tout de même.
Oui, oui. Patrice Minet.
Oui, alors...
C'est déroutant.
J'imaginais Sainte Thérèse en train de planer en lévitation dans son église et regarder les crânes des paroissiens en subodorant la façon dont il s'était fait couper les cheveux, coiffer, etc. Puis je me dis, c'est pas possible, dans les châteaux de l'âme, que j'ai pas lu 50 fois, je m'en serais souvenu.
Ouais.
Alors c'est pas elle.
Ça fait un.
Non, ça fait moins un.
On n'est pas couché.
Après, je me suis dit, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui a imité un texte raté. Et quelqu'un qui soit assez pervers pour ça. J'ai pensé donc évidemment à Colette se moquant de son camarade Willy. Ah. Puis je trouve que c'est un petit peu tardif, Colette. Donc je me dis, c'est pas Colette, c'est pas Willy.
Moins deux, Serge.
Ouais, ça fait moins deux. Et alors j'en ai comme ça une dizaine.
Ouais.
Pour finir, et je m'arrêterai sur un auteur qui est assez coquin, qui est assez rigolo, de temps en temps, quand il ne fait pas la cuisine, c'est Alexandre Dumas.
Ah, évidemment, c'est tentant. Alors, nous avons un Jean Giono pour Serge Joncourt, un Montesquieu pour Eva Almassy, un Émilie Brontë pour Patrice Delbourg et un Dumas pour Patrice Minet. Jean-Bernard Pouy, est-ce que un de ces noms et un des noms de la salle, Mirbeau, Ponson du Terrail, Jarry, etc., figure dans votre liste de trois?
Dans la salle, que dalle. Mais ici, il y en a un, ouais.
C'est vrai?
Ouais.
Oh.
Ce qui est quand même totalement étonnant vu les
propositions,
vu les éléments qui l'ont amené à prononcer ce nom. Enfin, ça, c'est un truc. Donc, je vous propose trois noms.
Oui.
Émilie Brontë.
Oh non.
Émilie Brontë, Gustave Flaubert, oui, et Philippe Solers.
Ah bon? Ah oui. Alors, Émilie Brontë, Philippe Solers, Gustave Flaubert, qui veut se prononcer avec des arguments littéraires, s'il vous plaît? Alors, Serge Joncourt, je pense que ces trois noms sont assez éloignés de Giono et du mouton même. Enfin, peut-être pas Émilie Brontë, le mouton, en Angleterre, il y a beaucoup de moutons.
Alors, bon, je vous trouve très injuste avec la fibre. N'oublions pas que Philippe Solers, c'est un bordelais.
Ouais.
C'est presque, on pourrait dire, un auteur du terroir.
Ouais.
Son premier roman, Une curieuse solitude, un très beau, très joli roman d'ailleurs, ouais, très parfait. Hein. Se passait à Bordeaux, là, bon, et la Provence, Bordeaux. Je vous ai dit que j'étais
c'était
un peu perdu
ouais,
au niveau de ma carte. J'ai pas potassé ma carte régionale depuis longtemps, ce qui fait que moi-même, je ne sais plus. Alors, je parlais de la Nouvelle-Aquitaine, on serait plutôt dans la Nouvelle-Aquitaine. Oui, il y a une obsession. Bon, il faudrait là-dessus, on n'a pas le temps, hélas. L'obsession de la coupe au bol chez Solers renvoie à une.
Ah, ça, c'est pas faux, oui.
Renvoie à une sorte de préoccupation très profonde dont on pense qu'il a peu écrit, mais en fait, si. Et c'est ce texte-là qui doit être dans un de ses gros volumes, vous savez, publié chez Gallimard, donc, qui sont des choses dont se sert.
Non,
oui,
mais on n'a pas de femme,
lui, probablement.
C'est vrai de lui, oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, il y en a des très épais, quoi. Alors,
ouais,
on se souvient pas de tout et parfois, on survole un peu des pages.
D'accord.
C'est sûrement là-dedans.
D'accord. Ah, Philippe Solers pour Serge Joncourt. Est-ce que la salle est pro Philippe Solers? Oui. Bon, il n'y a pas grand monde qui vote, hein, mais parce que votre candidat n'est pas encore arrivé.
Il y a beaucoup d'abstention en ce moment.
Eva Almassy, pour vous, Flaubert, Brontë, Solers.
Mais moi, j'ai perdu trois fois déjà dans cette histoire avec ces trois noms.
Oui.
Émilie Brontë, il y a beaucoup de folie. Il y a,
c'est les hauts de Hurlevent.
Les hauts de Hurlevent, oui. Il y a des personnages hommes qui peuvent avoir de très, très longs cheveux. Mais je ne crois pas en cette écriture et à l'adresse des perruquiers de sa plume. Alors, Solers, je ne peux pas le choisir. C'est jamais je ne le choisis. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est comme une sorte de vœu solennel. Je ne peux pas. Donc, il me reste Flaubert.
Oui.
Alors, Je ne peux récupérer de ce que j'ai dit qu'une seule chose, c'est la surécriture.
D'accord.
Mais, enfin, je reste extraordinairement dubitative jusqu'au résultat final.
Vous êtes pour Flaubert dans la salle ?
Oui.
Ah, il y a quand même petite majorité, là, de ceux qui s'expriment. Patrice Delbourg, Solers, Flaubert, Brontë. Alors, vous aviez... nommé Billy Brontë.
J'ai senti que vous vous moquiez de moi de citer le nom de quelqu'un que je n'avais jamais lu. J'ai senti des colibets en disant Brontë n'a jamais voyagé en Alabama et tout. Vous m'envoyez maintenant un petit peu vexé, il faut bien le dire. Et je ne tirerai aucune gloriole d'avoir donné le nom de Brontë tout de suite. Et j'en changerai. Ce qui est quand même une...
Ah, le lâche.
D'élégance suprême. Et j'irai vers notre plus grand écrivain, qui, rassurez-vous Eva, n'est pas Solers, mais Gustave Flaubert.
Ah, voilà. C'est bien, c'est vrai que c'est courageux. Bravo, Patrice. C'est très gentleman, en tout cas.
Gentleman fermeur.
Patrice Minet, qui choisissez-vous ?
Alors, on sait très bien que Philippe Solers, et c'est un styliste aussi, et qu'il est capable de tout. Il est capable d'écrire un texte comme ça. Encore faut-il qu'il ait le vrai texte sous les yeux. Et pour cette raison, je pense que un jour, Gustave Flaubert, qui était au bistrot, a rencontré Théophile Gautier et ils ont commencé à parler de coiffure comme tous les garçons qui se rencontrent. Et en rentrant chez lui, Gustave Flaubert s'est dit « Mais quand même, ce vieux Théo, quel talent, je vais réécrire tout ce qu'il m'a dit. » Mais comme il était ivre, il l'a réécrit de travers. Parce que c'est une écriture très claire, Gustave Flaubert. Et là, pour le coup, il a raté donc son coup, il a écrit ça. Voilà. Et après... on est tombé dessus, malheureusement.
Alors, nous avons trois Flaubert, pour Patrice Minet, pour Patrice Delbourg, pour Eva Almassy, un Solers pour Serge, et la salle, ma foi, qui est... Est-ce qu'il y a des Émilie Brontë dans la salle ? Ah oui ? Non, mais dites-le plus fort, hein. Oui, il y en a au moins trois, hein. Non, c'est bien, c'est bien. Alors, Jean-Bernard Pouy... On vous propose trois Flaubert, un Solers, pas d'Émilie Brontë, c'est un gros risque.
Non mais bon... Après tout ce que j'ai entendu, je suis légèrement effondré, car c'est quand même un texte de Flaubert.
Ah.
Et un texte que pas beaucoup de gens lisent, parce que c'est un texte qu'il a écrit avec Maxime Ducamp en 1886. C'est le voyage en Bretagne qu'ils ont fait à pied... qui s'appelle « Nous allions à l'aventure par les champs et par les grèves ». Les chapitres impairs pour Gustave Flaubert et les chapitres pairs pour Maxime Ducamp. Là, c'est un texte qui se situe dans les environs de Quimper, dans une chapelle, la chapelle de Kerfontaine, pour ceux qui connaissent, qui existe toujours et qui est une très belle chapelle, et où il voit un breton, un paysan breton, en train de prier avec sa petite fille. On dirait un indien... on ne sait pas d'où. Je dis, du feu immense.
On n'est pas loin de l'Alabama, quoi, de Patrice Delbourg.
Pas du tout, parce que et c'est des textes qui sont en même temps très, très fouillés, très beaux, très méchants. Et de temps en temps, il y a quelque chose qui le frappe.
Vous recommandez de lire ?
Oui, pour ceux qui aiment Flaubert, oui.
D'accord. Alors, vous
pour ceux qui aiment Émilie Brontë, surtout.
On a trois très beaux vainqueurs. Eva Almassy, Patrice Delbourg, c'est un miracle, puisqu'il avait voté pour Émilie Brontë. On peut savoir pourquoi vous aviez dit Émilie Brontë comme ça ?
Je sais pas, ça me semblait évident à la première lecture.
Et donc, troisième vainqueur, Minet, puis une partie de la salle, un beau perdant, Serge Joncourt. Ma foi, c'était très bien. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Pierre Monteil. Au revoir, à samedi prochain, 20h, pour le podcast, direction franceculture.fr. Pour les échanges entre amis, direction la page Facebook des Papous dans la tête. Et maintenant, place à la fiction du samedi soir. Très belle soirée sur France Culture.
Quoi, quoi?